Rien à dire. Puisqu'on parlait de langage, quand même, je trouve que bon, le silence est une opinion, il est aussi un langage, mais c'est un langage peu engagé.
C'est que le propos était complet.
Je vous remercie. Oh, il aurait pu l'être plus, mais enfin, je me suis dit que c'était inutile de trop bassiner et de trop répéter.
Oui, ce que j'ai à dire, c'est qu'il est effectivement curieux que les femmes qui donnent naissance à la chair de l'homme. Les femmes qui donnent naissance à la chair de l'homme, comme ça, comme si les hommes voulaient prendre une contrepartie qui puisse être équivalente en, je sais pas moi, en déniant un pouvoir qu'ils n'ont pas. Enfin, je sais pas comment je m'exprime.
Ça, c'est une idée très forte, une idée qui a été développée par exemple par les ethnologues, par Françoise Héritier par exemple, si vous avez lu Masculin, Féminin, des choses comme ça, c'est la grande idée, et que je crois pour ma part assez juste, disons, suffisamment vérifiée, une idée n'est jamais juste dans l'absolu, que la grande affaire des hommes, c'est d'arriver à contrôler ce pouvoir de donner la vie dont ils sont partiellement exclus, si vous voulez. Et voilà.
La question, c'est quand même pourquoi est-ce que les femmes n'ont pas pu peut-être plutôt s'opposer à cette puissance masculine qui les a quand même, comme vous dites, donné un rôle, je ne sais pas comment dire, mais pas de passeur, comme vous dites, quoi, enfin, au départ, tout au moins. Enfin, il y a un passeur sur le plan de la chair et puis il y avait une absence sur le plan...
Ceci expliquant cela, sans doute. La femme passeur sur le plan de la chair se voit de ce fait exclue de ce rôle de passeur sur le plan symbolique et de la parole et de la loi.
Mais elle a été complice de cette exclusion.
Ah, ça, c'est la grande question. Complice, consentante ou non, il y a aussi quelque chose de très important quand on le voit, quand on voyage dans des sociétés non européennes, c'est que la question de complice, non complice, c'est une question profondément occidentale et liée à notre droit pénal, à la division en idées, à la division en champs d'existence distincts. Ça, c'est très occidental. Dans un certain nombre de civilisations, il n'y a pas cette division en champs distincts. Déjà, tout simplement, la division entre la religion et le monde civil, la sphère publique et la sphère privée. Hein. Et donc, moi, si je me reporte à mes souvenirs de dialogue avec des femmes kabyles dans les villages ou en Asie, c'est tellement un tout. La vie, la famille, l'existence de soi est tellement un tout qu'il c'est déjà une conquête d'arriver à dire « je » et d'arriver à se ménager un temps à part, vous voyez ? Donc à construire une certaine intimité. Il manque essentiellement une autorisation de parole et une autorisation de réflexion, de recherche sur soi, et une autorisation d'intimité, de séparation du monde des autres, parce que beaucoup de femmes se sentent coupables. Je me sépare, donc je ne suis plus au service, je ne remplis plus mon rôle de femme, c'est... très, très difficile. Il faut penser, nous, l'Occident, nous sommes une toute petite partie de l'humanité. Et donc, le problème n'est pas... Vous voyez, les mots pour poser le problème ne sont pas forcément des mots mondiaux. C'est ça, je crois.
Merci.
Je voulais vérifier simplement si j'avais bien compris que est-ce que l'abandonné peut ne pas être dévoreur.
Attendez, là il y a un raccourci qui me... je flippe. Quelle relation entre abandonné et dévoreur?
J'ai cru comprendre ça à un moment.
Non, non, non. Dans la première partie concernant la remontée dans l'histoire du mot étymologie, de l'étymologie du mot abandon, on a vu que l'abandon au sens moderne date du XVIIe, l'abandon délaissement, et qui est relié, qui est appliqué aux êtres humains. Avant, il s'agissait d'un abandon consentement à remettre dans le flux commun. Hein. Et donc, ça, c'était la première partie. Et je vous ai dit ensuite, il peut y avoir pire que l'abandon, il peut y avoir la dévoration, parce que dans l'abandon, il reste quand même la vie. Le don de la vie reste. Simplement, la vie est redevenue collective et vous n'êtes plus... vous êtes dans l'indivision, si vous voulez, donc pas vraiment un individu. Vous voyez ? Mais la dévoration, c'est, j'ai appelé ça à un moment donné, c'est la préhistoire de l'abandon. C'est le pire. Avant... une première humanisation, la dévoration, c'est que on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans le temps, on n'est pas dans la parole. On est dans le passage à l'acte et dans la loi du plus fort, la loi du désir du plus fort. Et donc c'est une préhistoire, mais il n'y a pas d'autre lien que celui-là. Est-ce clair ?
C'est clair.
Merci.
Je trouve très intéressant en fait cette question-là parce que vous dites qu'il n'y a pas de lien, mais moi ce qui m'intéresserait c'est de savoir quel est le lien inconscient que vous vous faites.
Ah, c'est une
parce
bonne
que
question.
Vous n'amenez pas
le
ça
matin.
Par hasard.
Comment ?
Vous n'amenez pas ce dernier chapitre par hasard.
Je n'amène rien
faites...
n'est jamais par hasard, vous
voilà.
Le savez. J'ai réfléchi. Non, vous voyez, je vais essayer de vous dire comment c'est structuré, comment c'est élaboré ma réflexion. Donc, à partir de l'étymologie, j'ai beaucoup travaillé sur le mot « ban », « ba » en indo-européen, la parole, la loi. Et je me suis dit, mais attention, que devient le don ? Dans « abandon », il reste « don ». Ça demeure un don, le don d'une liberté. Au moins, on ne vous prend pas la vie, si vous voulez. Il reste le don, il reste la vie. Et je me suis dit, finalement, ce qui apparaissait comme le truc le plus horrible, vous voyez, nous, on est conditionnés par Jésus-Christ sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. Ça paraît, l'abandon nous paraît le drame le plus abominable de l'existence. Mais en fait, il reste la vie, et il reste un don dont on ne connaît pas la forme, ni la finalité, ni la motivation, mais quelque part, c'est là, c'est dans le mot... Et j'ai cherché à savoir s'il n'y avait pas pire. Finalement, je me suis dit, c'est pas si grave. Et ça m'a fait du bien, parce qu'on a tous notre petit côté abandonné. Enfin, on a, moi, je, si vous voulez, mais les autres aussi, sans doute. Donc, ça m'a fait un certain bien. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal de travailler comme ça, sur un thème. Et j'ai cherché pire. Parce que quand même, il devait bien m'être arrivé pire. On aime bien quand il vous arrive le pire. Au moins, on est quelqu'un. Non, mais c'est vrai. Et donc, j'ai cherché où était le pire et j'ai fouillé un peu dans ma mémoire, dans mes souvenirs, j'ai laissé aller, j'ai fait un peu, vous voyez, attention flottante, je suis allée au cinéma, j'ai fait diverses choses pour que ça me revienne. Et il m'est revenu la mythologie et l'histoire de Cronos, le lien entre le temps, la loi, et je me suis dit, voilà le pire. Pire que l'abandon, c'est la dévoration. Mais ça se place avant le temps, ça se place avant la loi et ça se place avant le lien de parole. Le lien que Cronos a avec ses enfants, c'est un lien uniquement biologique. Il fornique, il copule, on pourrait trouver un mot plus élégant, je ne l'ai pas, tant pis. Mais je crois que je n'aime pas beaucoup ce Cronos, en fait. C'est pour ça que j'emploie ces mots. Et il naît des enfants, c'est quasiment automatique. Et lui, ça ne lui plaît pas du tout, vous voyez ? Et les enfants, il les détruit à la naissance, parce que ses enfants... symbolise sa propre mort, c'est-à-dire la limite à son désir et la limite à sa vie. Donc, d'où la dévoration. Mais il peut y avoir aussi des dévorations symboliques. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sont bien placés pour le savoir. Mais enfin, dans une archéologie, si vous voulez, la dévoration se situe avant l'abandon. Voilà ce que j'ai voulu mettre en lumière.
Ce qui m'interpelle, moi, c'est le mot « don » également, notamment pour les enfants nés sous X. C'est une chance qui est donnée à l'enfant d'être adopté. Le lien se fait sans doute avec le prochain thème qui sera traité par Psychanalyse Magazine. Mais les familles qui recueillent des enfants abandonnés donnent une chance et donnent un nom et font le lien et permettent à l'enfant, en lui révélant l'origine, en positivant l'abandon qui a été fait, lui donne une chance de s'inscrire dans la parole et de s'inscrire dans l'histoire et d'être quelque part des passeurs.
je crois que vous avez plutôt raison, mais c'est une question que je ne maîtrise pas parce que, enfin pour moi, c'est de l'ordre de l'immaîtrisable parce que il y a la souffrance. Et si vous voulez, la souffrance, on ne la réduit pas en équation. On devient un passeur, oui, mais après combien de détours, quel voyage intérieur? J'ai dit tout à l'heure que l'abandon était une élection. Vous êtes un enfant élu, mais une toute élection suppose des privations, des détours supplémentaires. Ça ne se fait pas, on n'a pas une grâce sans contrepartie. Hein. Enfin, si vous allez être choqué que je vous dise maintenant que l'abandon est une grâce, mais il ne faut pas oublier ce terme « don » qui est dans l'abandon, je pense.
Je considère aussi que c'est une grâce.
Moi, je ne suis pas sûre d'aller jusque-là, parce que je connais des enfants qui sont maintenant des adultes, qui ont vécu des choses très difficiles, mais à un moment donné, si ça peut le devenir, oui, pourquoi pas.
Oui, je trouve très intéressante l'idée que vous avez reprise, que l'abandon était une élection, était une chance, et que la plupart des abandonnés pouvaient être des fondateurs. Est-ce que vous avez repris un petit peu suffisamment d'abandonnés pour voir s'il y avait des conditions à ce qu'ils deviennent des fondateurs? Est-ce que c'était tout ce qui pouvait le devenir? Ou est-ce qu'il y avait, dans l'histoire personnelle, des choses essentielles à avoir reçues à la naissance ou à la base? Et je rejoins un petit peu, ça me fait penser aux travaux de Boris Cyrulnik sur la résilience et sur les étayages nécessaires pour rebondir. Et qu'est-ce qui fait qu'on a abandonné, rebondi? Est-ce qu'on pourrait faire des liens avec ce que nous dit Boris Cyrulnik de la résilience?
Il y a certainement des liens à faire avec les travaux de Cyrulnik et son équipe sur la résilience, ça oui. Alors, quelles sont les conditions? Bon, Cyrulnik nous dit dans la résilience, si j'ai bonne mémoire, je l'ai lu quand il est paru, que les enfants issus de couples émotionnellement stables ont plus de chances de s'en sortir. Mais dans le domaine de l'abandon, il n'est pas question de couples parentaux, vous voyez. Et donc l'étayage, il ne peut pas se trouver là. L'étayage, il est forcément dans l'histoire antérieure. Et quand je dis étayage, si étayage il y a, quand je dis qu'on renvoie à la liberté naturelle, qu'on renvoie aux éléments ou au monde des animaux, l'étayage ne peut guère se faire que par une certaine connivence, confiance, complicité, empathie avec la nature et les éléments. Alors c'est un peu un pari, c'est-à-dire si on jette bon, Moïse a été placé dans un berceau qui flottait. Vous voyez, on l'aurait jeté à l'eau. Il y a eu quand même, bon, il a été abandonné, mais il y a eu un geste de l'abandonneur ou de l'abandonneuse qui l'a mis dans un berceau qui flottait, qui lui a laissé une chance. Donc, il a dérivé sur l'eau, et le Nil peut parfois être un fleuve vraiment très, très violent. Donc, il y a peut-être la part de chance, il y a la part d'intention du parent, de l'abandonneur. S'il y a quelque part une intention qui soit de laisser sa chance à la vie, c'est là, à mon sens, qu'on peut trouver un début d'étayage. Et ensuite, c'est l'enfant qui participe qui aide à l'étayage ou non. C'est l'enfant et puis les gens qui le recueilleront, qui lui donneront une certaine confiance en lui. Ensuite, c'est l'éducation. Enfin, j'ai l'impression que ma réponse est forcément partielle, parce qu'on n'a pas tellement de parents, on n'a par définition aucune information sur les parents. Il y a des choses parfois très simples, c'est simplement un geste au moment de l'accouchement, accouchement sous X, mais un petit geste ou des choses impalpables et qui resteront dans la mémoire. Voilà ce que je peux dire. Bon, eh bien, merci de votre attention et de votre intérêt.